C'est l'été 2021 et en fait l'idée c'est de nommer cette collection Muse en scène, puisqu'en fait une muse c'est une femme qui inspire les artistes, à part que là c'est la femme elle-même qui est une artiste. Voilà, donc l'idée c'était de mettre en scène un peu ses humeurs, ses interrogations, sa façon de travailler, etc., etc. Voilà, donc c'est un film qui est filmé en noir et blanc, qui représente donc plusieurs moments de sa vie, de sa journée, et donc c'est tourné en séquence.
Quelle est l'ambiance créée par cette collection?
Déjà, c'est un film en noir et blanc, donc il y a un côté assez réaliste, contrasté, je dirais, mais il y a énormément d'évocations photographiques. Beaucoup de puisqu'on peut y voir des comment dire des allusions aux photographies de Man Ray, mais aussi du photographe Richard Avedon, puisque par exemple on s'est inspiré d'une photo très connue qui est une femme qui dîne avec un léopard. Bon, et là on a fait la femme qui dînait avec son chat, et donc elle est en queue de pie. Comme pour. Puisqu'il y a un aspect aussi masculin, féminin qui est très important, mais cette queue de pie est retravaillée avec de la dentelle. Donc on retrouve beaucoup cette idée de masculin-féminin avec la présence de pantalons, ce qu'on ne voit pas très souvent chez Franck Sorbier. Mais il y a aussi tout un aspect lingerie d'intérieur. Donc, par exemple, de robes qui ressemblent un peu à des déshabillés, ce qu'on appelait autrefois des déshabillés, ou des robes d'intérieur, ou des choses voilà, qui ont un aspect un peu nonchalant.
C'est un monde imaginaire avec cette muse sculptrice.
Il y a des passages qui sont imaginaires, et puis en tout cas transcendés. Et puis il y a des moments qui sont complètement comment dire qui sont complètement réalistes, parce que bon, on la voit pas faire la vaisselle hein, bien sûr, mais on la voit travailler par exemple dans son atelier. Donc ça c'est quelque chose qui correspond à part que la façon dont on l'a habillée nous est une façon différente dont elle s'habille elle quand elle travaille. Voilà, donc l'idée c'est de faire des allusions, à un clin d'œil comme ça, à des moments très précis, mais avec quelque chose qui est sublimé, puisque chaque passage a aussi un titre, chaque séquence, et c'est vrai qu'on fait aussi allusion parfois à des contes de fées, comme Au miroir, mon beau miroir, puisque ça c'est dans Blanche-Neige, avec la reine. Et le miroir lui répond, tu es toujours la plus belle ma reine. Mais bon, pour par exemple le travail, on est sur l'idée d'alchimie, puisque finalement, tout ce qui est un peu sculpture, mais aussi four comme ça, de porcelaine, céramique, ça a un côté un peu magique, donc un peu de l'alchimie. Et voilà, donc chaque passage raconte une petite histoire. On a sur un passage à un moment, il faut cultiver notre jardin. C'est la dernière phrase d'un roman de Voltaire, donc Le Grand Siècle des Lumières, un grand écrivain du siècle des Lumières. Et c'est en fait la dernière phrase de Zadig qui dit il faut cultiver notre jardin. C'est-à-dire qu'après avoir fait le tour du monde pour chercher ce que finalement on peut avoir chez soi, voilà, il se rend compte que toutes les aventures qu'il a vécues, ben, il aurait pu les trouver dans son propre jardin. Donc il y a aussi cette idée aussi de philosophie et il y a aussi un passage sur une robe noire ou que l'on a appelé sortilège, puisque le noir va avec cette idée un peu de prémonition, de vision aussi de l'au-delà. Et on finit par un thème entièrement or qui correspond à comment dire à des sculptures, aux dernières œuvres de Catherine Wilkening, qui sont en fait que des statues de vierges qui sont revues et corrigées par ses soins. Voilà. Mais on est passé entre-temps, je me rappelle plus du thème. Ah oui, c'est Magie Blanche. Donc là, on voit une et là, c'est une, comment dire, l'évocation aussi d'une photo de. En fait, Cocteau a été photographié comme ça, c'est-à-dire on le voit avec pas mal de bras, un peu comme une déesse, la déesse Shiva, hindoue. Et en fait, c'est un peu pour montrer comment dire, les fonctions que quelqu'un peut. Enfin, fonction, c'est pas un très joli mot, mais finalement, quelqu'un qui peut s'exprimer de différentes façons, aussi bien par la plume que par le théâtre, que par le dessin, que. Voilà, donc c'était un peu, voilà, quelque chose qui avait plus qu'une triple dimension.
Toujours modernisme, toujours lyrique, toujours dans une histoire. Ce monde créé par une collection entière de haute couture. Vous avez dessiné, vous avez pris le soin pour confectionner. Et qui vont porter, qui serait votre muse réelle dans la vie?
J'ai pas tellement ce genre d'interrogation parce que finalement j'aime bien ce rapport au contact humain et finalement les muses sont les femmes que j'habille quoi, c'est assez suffisant, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de. Bien sûr, il y a des actrices que j'aime plus que d'autres, des personnes qui font rêver, mais je trouve que finalement j'ai pas ce côté. Comment dire, groupie de quelqu'un en particulier. Il y a des gens que j'admire, bien sûr. Il y a des gens des femmes que j'aimerais habiller. Mais finalement, les femmes que j'habille aujourd'hui, j'en suis très content parce que j'ai un rapport aussi privilégié avec elles.
Est-ce qu'une femme qui n'a rien à voir avec le monde que vous avez créé, et une fois elle porte vos vêtements, votre robe, et ça peut la transformer dans un autre rôle?
Ah. Alors normalement un vêtement, moi j'estime qu'un vêtement n'est pas fait pour transformer quelqu'un. Il doit plutôt s'adapter à la personne. Il doit plutôt, comment dire, pas s'effacer, mais finalement il doit être là plus pour. Moi ce que j'aime bien, c'est la femme qui s'amuse avec le vêtement, qui fait que le vêtement devient le sien. Bien sûr, on remarque un vêtement, mais l'idée c'est plutôt qu'on remarque la femme. Donc après qu'une femme soit transformée, c'est compliqué parce que quelqu'un qui n'aurait pas envie de rentrer dans la peau d'un vêtement ne le fera pas.
Par exemple, cette collection, vous travaillez avec une ancienne actrice, un sculpteur. Toutes les pièces de cette collection ne seraient pas finalement chez elle pour qu'elle s'habille. C'est plutôt aller à Moscou, à Dubaï, partout dans le monde. Mais imaginaire, pour ceux qui ont les moyens pour apprécier, pour prendre une pièce de vous dans sa vie. Et ça peut être une femme de grand banquier, etc. Donc, vous pensez que cette touche artistique interprétée par votre muse à Paris pourrait finalement aller avec vêtements chez la femme de banquier, chez une grande financière, etc.
Alors ça, c'est effectivement une question qui est intéressante parce que c'est vrai que quand on connaît Catherine Wilkening dans la vie, elle n'est pas du tout sophistiquée. C'est-à-dire qu'elle a un côté comme ça, justement, très bohème, très. Puis elle mélange des choses qui sont qu'on pourrait qualifier d'anachroniques. C'est-à-dire qu'elle a sa propre vision de la mode et sa propre façon de porter les choses. Mais l'idée, là, justement, c'était quelque part de lui faire endosser des rôles différents, mais effectivement de la rendre plus sophistiquée qu'elle n'est elle-même dans la vie. Donc effectivement, après, on imagine que sur une femme qui est plus sophistiquée, les vêtements pourraient prendre une dimension différente aussi. les clientes haute couture traditionnelle, ce sont des femmes qui ont connu ça grâce à leur éducation. C'est-à-dire que normalement, c'était la maman qui amenait la fille chez le grand couturier, chez qui elles étaient déjà habillées, chez qui la mère était déjà habillée. Donc c'est un peu quelque chose de patrimonial et familial et culturel. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'il y a encore beaucoup de clientes comme ça. Je pense qu'il y a plus de nouvelles clientes, puisque l'argent aussi a changé de main. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui ont énormément d'éducation, de culture, qui sont issus de grandes familles, mais qui n'ont plus les moyens de s'habiller en haute couture. Alors qu'il y a des gens qui, effectivement, sont issus de l'industrie ou du commerce, tout simplement, ou de certains milieux qui sont de milieux financiers, qui, eux, ont les moyens de s'habiller en haute couture, mais qui n'ont pas eu forcément la culture. Donc, je crois que c'est une question aussi de curiosité. Si les gens s'intéressent à une maison, à un style, ou à certains vêtements, c'est parce que, voilà, ils ont la curiosité. Et par exemple, quelqu'un qui viendra chez Franck Sarbier, c'est quelqu'un qui aura cette envie aussi d'exclusivité et de pas se retrouver habillé comme tout le monde.
C'est réciproque. Je pense que quand l'argent a changé la main, une nouvelle génération d'amateurs de haute couture cherche haute couture pour s'habiller. Et est-ce que les couturiers comme vous, qui sont déjà habitués à cette grande tradition de haute couture, est-ce que vous avez ajusté votre fil de conduite de travail vers cette nouvelle génération qui commence à acquérir les moyens?
En fait, nous, on a notre point de vue, c'est déjà de créer nos matières et d'être différent des autres. Donc, voilà. Après, je crois que c'est une question de désir. La haute couture, c'est ce qu'on fait. Par exemple, ce qu'on vient de présenter, ce sont uniquement des propositions. C'est souvent ce que je dis. Hein, la haute couture n'est pas figée. L'idée n'est pas de refaire forcément un modèle qui était dans la collection. L'idée, c'est par exemple de dire j'aime cette matière, mais la couleur, j'aurais plutôt envie de quelque chose de très coloré. Voilà. Donc après, il y a une discussion, on échange avec la cliente et l'idée, c'est presque de recréer un modèle qui part d'une idée de base. De la collection. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que nous on spécifie bien qu'on parle vraiment de pièces uniques haute couture. Donc l'idée c'est pas de refaire derrière des séries pour l'idée c'est vraiment que la personne qui le porte se l'approprie.
Chez les grands couturiers, tout le monde commence à faire des slogans en ce moment, c'est-à-dire avaler quelques phrases sur le vêtement ou bien détourner le slogan dans les coupes en fait pour manifester leur réaction vis-à-vis du changement du monde, vis-à-vis de la réalité de ce monde. Et en même temps, je remarque, vous avez toujours gardé votre indépendance vis-à-vis des vagues, des tendances. Dans ces collections-là, je vois une certaine mélancolie, mais en même temps, c'est très lyrique. C'est comme si à l'Opéra Garnier, qui a cette lyrique très accentuée.
C'est vrai que, comment dire, je ne sais pas si c'est la mélancolie, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Enfin, on peut dire que par tempérament, je suis nostalgique. Donc il me semble que ce qu'il y a eu avant est beaucoup plus romanesque, beaucoup plus épique, voilà, l'humanité a été une très grande aventure. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup moins de choses qui me font rêver qu'il y a 40 ans. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on avance en âge, ou est-ce que c'est la société d'aujourd'hui que je trouve moins excitante? En même temps, il y a beaucoup d'aventures, mais c'est vrai que les aventures qu'il y a en termes de société, c'est plutôt du numérique. Donc voilà, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, qui m'est complètement étranger. Et c'est vrai que j'aime beaucoup regarder en arrière, et ça me permet aussi d'avancer, parce que je trouve qu'on peut retraduire aussi les choses de façon différente. Et de toute façon, quand on étudie bien l'histoire du costume, on se rend compte que rien n'est jamais une véritable création, que tout s'inspire de ce qui a déjà été fait. Après, c'est étudier, c'est proposer différemment. Je crois que c'est aussi... Il y a toujours un effet de réaction à quelque chose qui se passe. Donc voilà, on passe de tel genre de silhouette à des silhouettes très contraintes pour les femmes, à des silhouettes complètement libérées. De nouveau, on repasse à des silhouettes contraintes. Il y a toujours quelque chose comme ça qui est en réaction, mais pas forcément de la même façon. Ça s'exprime différemment. Donc je trouve que dans ce sens-là, la mode est intéressante, quoi. Ce côté sociologique est important. Et je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, je trouve que la couture, en tout cas, puisque le prêt-à-porter est quand même très organisé en termes de marketing, la haute couture, il faut qu'elle garde aussi cette liberté d'expression. Il faut qu'elle reste indépendante aussi de tous ces aléas économiques, parce qu'elle doit rester une création aussi très libre et très pure. Parce que sinon, je ne vois pas à quoi elle servirait, parce que finalement, aujourd'hui, tout le monde, avec de la documentation, de bonnes archives, des bons bureaux de style, peut faire de très belles robes du soir, pour le Festival de Cannes, pour les Oscars à Hollywood, etc. Ça, c'est... Bon, voilà, ce sont des robes qui sont des créations qui sont éternelles. Et finalement, il suffit d'avoir des bons ateliers pour les faire. À part que, je trouve, être dans une création et se dire, ben, ça, c'est une création qui appartient à ces années-là, parce que à ce moment-là, on a pensé la matière, la façon de faire différente. Ça, c'est intéressant, je trouve. Ou alors qu'on ne puisse pas dater une robe. Parce que je me rappelle que, par exemple, la première fois que j'ai vu une exposition de mode, c'était au Palais Galliera. Donc, c'est il y a quand même dans les années 80. C'était une expo sur Pierre Balmain. Et à l'époque, il y avait une robe, il y avait une photographie de robe que je trouvais magnifique dans le livre, qui était une photo d'époque, hein, une grande robe du soir avec des longues plumes de faisan, etc. Et quand j'ai vu la robe en vrai, je trouvais que c'était très décevant parce que la robe n'était plus dans son contexte. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de créer aussi des vêtements qui, même s'ils sont sortis de leur contexte, qu'on les voit en tant que nature morte, on les apprécie presque comme des objets, comme des sculptures, justement, qui sont des pièces à part, quoi, comme on pourrait admirer une peinture, une porcelaine, une sculpture.
Cette liberté, cette pureté, pour arriver à des pièces quasi comme l'œuvre d'art, saison après saison, comment on arrive au niveau de réalisation, au niveau de procédure, comment on arrive à assurer cette liberté et cette pureté?
Je dirais que par passion, par passion, le réalisme, la pureté, je dirais, de chaque pièce qui sort d'ici n'est jamais finie. Une pièce haute couture, par définition, pour répondre des mains de Franck Sorbier, elle peut continuer sa vie de finition pendant plusieurs mois. Elle se finit, mais après, c'est un travail d'élaboration et de conception qui, entre guillemets, n'est jamais achevé. C'est la haute couture, par définition, et pour une cliente, c'est pareil. Elle peut revenir pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans avec sa robe, c'est une pièce qui est à vie. Donc aujourd'hui, se poser la question de faire des collections et de sortir des modèles entre guillemets uniques à chaque fois, c'est une thématique, une histoire et un imaginaire que Franck Sorbier a par rapport, je vais vous faire rire, je dirais que Franck Sorbier est un peu Bob l'éponge. La dernière collection avant celle où Catherine Wilkening était la muse, c'était Il Medico della Peste. Bon, Il Medico della Peste, c'était justement face à la Covid, face à tout ce qui nous arrive, et retranscrit au musée des arts et métiers. Bon, il fallait y penser, de se dire, de transformer même un cheval noir en Covid. Toutes les métaphores et les équilibres de métaphores oniriques que Franck a sont exponentiels. Et comme ces pièces haute couture, c'est-à-dire que c'est une histoire sans fin.
Merci beaucoup.
RFI, Radio France International.